Donc on revient dans notre étude du livre de Shemot et on se rapproche mamash de la fin du livre de Shemot. Après, il faudra qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire le livre de Vayikra? Est-ce qu'on veut faire autre chose? Quoi qu'il en soit, nous sommes au chapitre... Chapitre Lamed Chet, verset Kaf Aleph. Ou alors, page 176, pour ceux qui ont les petits livres blancs.
Mais dis-nous le chapitre et le...
J'ai dit
en français, pour nous
autres. Ah, pour nous autres pour gaulois. Eh bien, chapitre 38, verset 21. Ou alors, je peux aussi te dire que c'est le début de la paracha de Pécoudé.
Ah, bah voilà.
Voilà. Ça marche aussi. Ça aide.
Attends,
et ben voilà. Yofi. Donc, nous sommes donc à la fin donc du livre de Shemot. On a terminé la construction du Mishkan. Ça y est, c'est fini. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, le compte rendu du travail bien fait. Voilà. Nous allons devoir rendre des comptes sur tout ce que les Bnei Israël ils ont donné. Et la première question, c'est la main. Quoi, on fait pas confiance? Oui, pourquoi? Enfin, on fait pas confiance à Moïse? Pourquoi est-ce que maintenant Moshe doit rendre des comptes sur ce qui s'est passé?
Eh bien voilà, pour donner l'exemple pour ses successeurs, les Parnassim dans toutes les générations.
Qu'il faudra toujours rendre des comptes pour que si jamais il y en a un dans l'époque future qui n'est pas ultra, ultra honnête, alors non. Idéalement. Tu m'as demandé, écoute, si tu as envie de participer au Mishkan, participe. Il n'y a pas de raison que je ne te fasse pas confiance. D'autant plus que, on voit bien que le Mishkan a été fait. C'est pas comme s'il avait pris l'argent et est parti avec.
Dans toutes les histoires de corruption, le travail il est fait.
Mais on a gardé une grande marge. Non, il y a des histoires où aussi où le travail n'est pas fait. J'ai entendu une histoire là, ce Shabbat à la synagogue, comme quoi il y a quelqu'un qui a organisé un Pessah au Maroc, et quand les gens sont là cette année, et les gens sont arrivés RF Pessah, et il n'y avait rien en fait. Il n'y avait rien, c'est fantastique. T'as le mec, il a pris, je ne sais pas combien de personnes avaient commandé, avaient payé. Alors, je me demande qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là. Ce soir, c'est Pessah, t'es au Maroc et il n'y a rien de prévu.
Il y a la communauté.
En tout cas, tout ça pour dire que, évidemment, quand il y a des gens qui sont corrompus, des gens que tu soupçonnes, mais là, c'est Moshe. Mais justement, rappelez-vous qu'on a dit qu'il y avait une séparation entre l'idéal de la construction du Mishkan dans les parachutes de Terumat et Tzaveh et la réalisation concrète après l'épisode du Vaudor. Et donc après l'épisode du Vaudor, on est bien obligé de demander un compte rendu pour montrer qu'on est honnête. D'accord ? C'est-à-dire que le peuple d'Israël n'est plus dans son idéal de perfection, mais il a montré qu'il peut tomber également. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit « Elle est pekoudé à Mishkan, Mishkan à Edout ». Voici les comptes rendus du Mishkan, le Mishkan du témoignage. Et là, y a un Mishkan en trop. Ah oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire « Elé Pekoudé Mishkan Haedout » ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu dire simplement « Voici les comptes rendus du Mishkan du témoignage » ? Pourquoi est-ce qu'on me dit deux fois le mot Mishkan ?« Elé Pekoudé à Mishkan, Mishkan Haedout » ? C'est pas chouette. Le Mishkan, c'est l'ancêtre du Mikdash. Et quand on pose du Beth Amikdash, du temple, le tabernacle, quel est le rôle du tabernacle? Quel est le rôle du Mishkan? Quel est le rôle du Beth Amikdash? Eh bien, d'après notre paracha, on voit que le rôle est double. D'un côté, il vient faire les pécoudés, et de l'autre, il vient servir de témoignage. D'un côté, il sert de compte-rendu de ma relation avec Dieu. D'un autre côté, il témoigne de ma relation avec Dieu.
Et toute la question de sacrifice pour pardonner les fautes, etc.
Je ne sais pas encore. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on m'a parlé d'un misbéach, mais on ne m'a pas encore expliqué qu'il y avait des sacrifices expiatoires. Ça, on me le dira dans le livre de Vaïra, mais je ne le sais pas encore. Mais je vois qu'il y a deux dimensions becholzot, l'une qui sert à faire un compte-rendu, qui montre quand même une chute de la confiance, de la relation, et une autre qui montre qu'il y a la relation. C'est-à-dire ? Maintenant, c'est ça tout le truc. On vient de sortir de Pessah et on a chanté la chanson « Daï Daïenou ». Tu te rappelles ? Oui. Et comment ça finit, Daï Daïenou ? Comment ça finit ? Ah. Oh. Nous.
Si on était rentré en Eretz Israël et qu'on n'avait pas construit le Beit HaPrira.
Daïenou. C'est si nous on n'avait pas construit aussi. Ilo, Ichnisanu, il nous a fait rentrer en Eretz Israël. Velo bana lanu et Beit HaBechira, Beit Daïenou. Donc, ok, si nous n'avions pas construit le Beit HaMikdash, Daïenou. Et après, on fait quoi dans la Haggadah ?
Ensuite, on refait toute la liste.
Ah, on redit. Pourquoi on redit ? On redit pour arriver à la fin qui change. Puisqu'on nous dit Alachat kama vechama tova ou kvula ou mechupelet la makom alenu she, toute la liste. Ve bana lanu et bet abechira ou bet amigdash, ça dépend des versions des agadotes, mais c'est quoi les deux derniers mots?
Le
chaper al kol avonoten.
C'est ce que je dis.
Ah oui, mais bon, la agada a été écrite après le livre de Vaïkra. Donc elle a le droit. C'est-à-dire, mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bet amigdash, il est là parce qu'il est là, ou il est là pour les chaper? Il est là parce qu'il y a un problème dans ma connexion avec Dieu, donc j'ai besoin d'un truc concret physique, ou il est là pour témoigner de ma relation avec Dieu. Eh bien, c'est toute la dualité du Beit HaMikdash. Oui, il a et ce rôle-là à remplir, et ce rôle-là à remplir. Lorsque je ne suis pas au niveau, alors pour moi, je vais amener un korban khatat. Lorsque je suis au niveau, je vais amener un korban toda, ou ola, shlamim. C'est-à-dire ? Donc il y a ces deux dimensions dans le Mishkan. Elle est pekoudé à Mishkan, tzatcheni, Mishkan à Edut. D'accord ? Asher pukad alpi Moshe, avodat alevim, beyad Itamar ben Aaron à Cohen. Donc qui est le chef de chantier du Mishkan ? Moi je croyais jusqu'à présent que c'était Betzalel, ben Uri, ben Hur, le Maté Yehuda. Et son adjoint Aholiav ben Achisamach le Matedan, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas eux les responsables du programme. Eux, ce sont les contremaîtres, les architectes. Mais qui est l'entrepreneur responsable de la construction du Mishkan ? Alors, Moshe, c'est le commanditaire. Mais qui est l'entrepreneur ?
Itamar
ben Elazar, Itamar ben Aaron Akohen. C'est-à-dire ? Attendez, je n'ai pas compris. Itamar est le responsable de la construction du Mishkan. Qui devrait être responsable ? Et Lazare. Et Lazare, c'est le grand frère. Donc si déjà, on donne à un Cohen de gérer tout ça, c'est Lazare. Et il ne peut pas, il est déjà occupé. À quoi ?
À apprendre.
À apprendre à être le futur Aaron Cohen. Donc, Itamar, c'est lui qui est le responsable de tout ce qui va se passer. D'accord ? Ou Betzalel ben Uri ben Hur, le Maté Yehuda, Asa et Kol Asher Tziva Hashem, et Moshe. C'est-à-dire ? Veito Liav ben Achisamach le Maté Dan, Harash ve Choshev, Verokem, Batechel et Uba Argaman, Batola et Ashani, Uba Shesh.
Il y a une précision là. Et Kol Asher Tziva Hashem, et Moshe.
Ouais.
Ok, non, j'ai une ordonnée, ok. D'accord, non. C'est pas Ed Moshe, c'est Ed
Moshe. J'ai pas compris. Pourquoi il y a marqué Ed Moshe, c'est ça que tu veux que tu demandes ?
Je voulais l'hydroche.
Ah, tu veux l'hydroche itim, effet. Tu sais ce qui s'est passé le dernier qui a voulu faire ça ? Chad Mechachme Agmara. Ouaya Doresh et Kol Aitim Sheba Torah.
Jusqu'au jour où ?
Il a dit c'est les rabotes. Ed, c'est les rabotes. Chaque fois qu'il y a marqué Ed, ça veut dire il y a un truc en plus. Ok, et jusqu'à ce que donc là en l'occurrence c'est quoi? Asher tziva Hashem et Moshe Vet Aaron. Et les rabot. C'est rajouter quelque chose en plus qui n'est pas marqué. Jusqu'à ce qu'il est arrivé au pasouk. Et Hashem Elohecha tira. Elle dit, ah non, on ne peut pas les rabot. Pas les rabot, bah, si, il faut craindre Dieu. Mais tu dis et, ça veut dire en plus. Donc quoi, il y aurait quelqu'un en plus que Dieu. Donc il dit... Ah, qui c'est qui a répondu? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il vient derrière et il dit, non, et c'est le rabot Talmidei Chachamim. Ah, arrive le rabbi de Ishbitzer. Et il dit, mazé. C'est-à-dire que gam les Talmidei Chachamim, ils doivent lire et Hashem. Et Hashem Elohe Chatira. Et le rabot Talmidei Chachamim. Il n'y a pas que toi qui dois lire et Hashem, et la gam Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, les amis, il y a Betzalel et donc Aholiav. On a expliqué, on le redit, pourquoi est-ce qu'on a besoin et de Yehuda et de Dan, c'est-à-dire et de la tribu de Yehuda et de la tribu de Dan. Nous dira Rashi, il cite le Midrash, qui en lecha meoule shebashvatim mishevet Yehuda, ven lecha yarud shebashvatim mishevet Dan, vetzarich et shneem kedelivnot et ashrina. Il n'y a pas de plus élevé que la tribu de Yehuda et de plus bas que la tribu de Dan. Mais c'est élevé et bas. Élevé dans sa relation à Dieu et bas dans sa relation à Dieu. Élevé dans sa prise de responsabilité sur le peuple juif et bas dans sa prise de non-responsabilité du Ham Israël. Et donc, on a besoin des deux. C'est-à-dire que
ils
personne...
Pas spécial, Dan, pour être comme ça,
qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial de... dans la disposition des Machanot, c'est eux qui sont en dernier.
Okay.
Ceux qui ferment la marche. Et nous dit le Midrash que à Anan aya polet otam. Que les nuées avaient tendance à les faire sortir. C'est-à-dire, la nuée avait tendance à aller plus vite que Shevet Dan. La nuée, c'est pas quelque chose d'anodin. Ça fait référence directement à la volonté divine. Et donc, il semblerait qu'ils ont un problème d'être rattachés au Am Israël. D'ailleurs, ils vont pas être exilés leur Nahala. Où est-ce qu'ils sont censés être? Ils sont censés être. Ils sont censés être à Tel Aviv. Ils sont censés être dans le Gush Dan. Après, Nahalat Dan, c'est Tel Aviv, Houlon, Ramat Gan, Bnei Brak. C'est là-bas Dan. Mais nous, on va les retrouver dans le Tanakh, dans le Nord. Pourquoi? Parce que dans le dire en Sefer Shoftim, ils n'ont pas réussi à bien s'installer les Gush Dan. Donc, ils ont été conquérir le Nord. Ils sont passés dans le Nord. Top. Nous, c'est Dagamou. Vers Makara. Eh bien, bien plus tard, il y aura une milchama entre Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda. Et oui, quand il y a eu le schisme entre les deux royaumes, eh bien, on n'a pas toujours eu des bons rapports entre le royaume d'Israël et le royaume de Yehuda. Et donc, le roi d'Israël a lancé une guerre contre le roi de Yehuda. Il a demandé l'aide des Shevet Dan, parce que c'était des bons combattants. Et ils ont refusé. Jusque-là, c'est ce qui a marqué dans la Torah, enfin dans le Sefer Melachim. Mais le Midrash nous dit, ok, ils ont refusé, et alors? Eh bien, ils n'ont pas voulu rester là où ils sont, de peur qu'on les entraîne de force dans la guerre. Et donc, ils sont partis. Ils sont partis où? Ben, ils sont d'abord partis en Égypte. Ensuite, de l'Égypte, ils sont partis en Éthiopie. À l'origine du Nil. Et de là, ils sont restés. Et de là, au Xe siècle, il y a un voyageur de là-bas qui arrive chez les communautés, avec chez les Géonim, à Babylone. Et il va raconter qu'il s'appelle Eldad, et qu'il est un descendant de la tribu de Dan. Et il va écrire le livre Eldad ad-Dani. Et c'est à partir de ce témoignage-là qu'on assimile les Juifs d'Éthiopie à la tribu de Dan.
D'accord.
C'est ça ? Bekitsour, donc on a besoin et de Yehuda et de Dan. On voit que Betzalel est responsable des gros travaux. Aholiav, lui, il est responsable des matériaux. D'accord ? כל הזהב יעשו למלאכה בכל מלאכת הקודש ויהי זהב תנופה 29 כיכר ושבע מאות ושלושים שקל בשקל הקודש. Donc on commence à faire le bilan. Voilà tout ce que ça nous a demandé. Combien d'or on a eu besoin? Eh ben, on te dit, Tesha Vesrim, 29 kikar. Alors, combien c'est 29 kikar? Est-ce que lui, il le dit? Je me rappelle plus s'il le dit. Kikar, shishim mané. Ou mané shel kodesh kafu laya, are kikar, c'est kaf, et kuf kaf mané. Va mané, kuf kaf slay, kuf hei slay, kaf hei slay, slayim. Are kikar shel kodesh, loshet alafim shekalim. Donc, un kikar, c'est 3000 shekels. Pas shekels. Shekel, mais la pesée du shekel d'argent. Le firar mana bepurutot kol ashekalim shepechutim miminyanam mishoshet alafim shem magim le kikar. Donc en fait, on est en train de nous dire qu'il y a une quantité assez énorme d'or, puisque chaque aden, combien de kikarim en tout, on dit esrim veteisha kikar zahav. Ok, c'est beaucoup. וכסף פקודי העדה, 100 כיכר ו-1,000 ו-750 ו-70 שקל בשקל הקודש. קומיה ודרג'ן? 100 כיכר ו-1,750 ו-70 שקל בשקל הקודש. יווה 100 כיכרות, אנקור? 1775 shekel beshekel hakodesh. Donc là, on a beaucoup plus d'argent que d'or, évidemment. Beka la gulgolet machatzit shekel beshekel hakodesh lechol haover al hapekudim ben 20 shana v'ma'ala ל-600,000 ו-3,550. D'où provient tout cet argent-là? Machatzit shekel. Que chaque juif, il doit donner un demi-cycle d'argent. Tu mets tout ensemble, ben voilà ce que ça fait. Ok? Vayi me'at kikar kesef la tseket et adne akodesh, vet adne aparochet me'at adnim le me'at kikar, kikar la aden. Donc on te dit à quoi a servi l'argent. Il a servi un, au machatzit shekel, et deux, il a servi, comme j'ai dit, au adanim. Ces fameux socles sur lesquels on pose des poutres. D'accord? Ok. ותלף ושבע מאות וחמישים ושבעים וחמישה ושבעים עשה ווים לעמודים וציפה ראשיהם וחישק אותם. Le reste de l'argent a servi à faire les boucles pour faire passer les amudim et les pouvoir les attacher les uns les autres. ונחושת התנופה. Combien il y avait de cuivre? ונחושת התנופה 70 כיכר ו-2,400 שקל. Donc là il y avait 70 כיכר, 70 כיכר et 2,400 שקל. Oui, שקל. Parce que ça sert pas במלאכת הקודש. ויעז בא את אדני פתח אוהל מועד ואת מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו ואת כל כלי המזבח. Donc, à quoi, qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? On a fait les ustensiles du misbéach, on a fait le misbéach à nechrochet, et kol klé à misbéach, tous les ustensiles du misbéach. Vet adne chatzer saviv, vet adne char chatzer, vet kol yitedot à mishkan, vet kol yitedot chatzer saviv. Toutes les, comment, aux Ayi, on appelait ça des sardines, les pieux, qui vont nous servir à faire rentrer les pots, au sol et que le vent ne les enlève pas, sont faits en cuivre. Umina techelet ve'argaman ve'tolat hashani asu bigdei serad lesharet bakodesh. Donc umina techelet umina argaman ont fait les bigdei serad. Mazé bigdei serad ve'asu et bigdei hakodesh asher la'aron ka'asher tziva Hashem et Moshe. C'est quoi ces habits dont on parle? C'est les habits des Kohanim. Seulement Tchelet, c'est quelle couleur?
Bleu.
Bleu. Argaman, c'est quelle couleur?
Rouge.
Rouge. Je comprends pas, les habits des Kohanim sont quelle couleur?
Blanc.
Ben alors, à quoi ça sert?
Ben, il y a les...
Alors oui, il y a les habits du Kohen Gadol, nous.
Oui, non, il y a les habits dans le Mishkan et les habits...
Ah non, ça s'appelle un... Là, mon ami, tu es en train de proposer un détournement de fonds. Un abus de biens sociaux, ça s'appelle, mon ami. Tu es en train de me dire que c'est à moi de financer la garde-robe,
la garde-robe
du quotidien de Monsieur Cohen quand il n'est pas au Beth Amikdash? Tu serais Cohen par hasard?
Non, pas du tout.
Non, mais c'est ça que tu me dis. Tu me dis qu'il faut qu'on finance aussi leur garde-robe. De quand ils vont Shabbat chez leurs amis.
Et pourquoi pas leur alimentation?
Et pourquoi pas leur alimentation, tant que t'y es? Hein? Ils n'ont pas assez avec les matnats de Kehuna? Que je dois aussi leur donner tout le reste? Oui, je leur donne tout le reste. Je leur donne les fruits avec les bikourim, je leur donne les céréales avec les menachot. Alors tu veux quand même pas que je leur donne aussi leurs vêtements? Ben non, je leur donne pas leurs vêtements, mais maintenant. Donc oui, on a besoin de Trelet Vargaman pour tous les habits des Kohanim. Il y a quoi comme, qu'est-ce qu'on utilise pour le Trelet Vargaman? La ceinture. Dans la ceinture des Kohanim, il y a Trelet Vargaman. Ma? Quel problème?
Le problème, non, mais on parle spécialement de ces couleurs pour oui. un petit élément de leur
habillement
et le reste.
Le reste, c'est en blanc.
Oui, alors,
c'est bigot de pichtan.
Faut pas.
Non, mais ça coûte rien, le pichtan.
Ah bon? Ok.
Non, aujourd'hui, nous, le lin, ça nous, c'est très cher. Mais à l'époque, le lin, hein, c'était quelque chose qu'ils avaient pris en quantité astronomique de l'Égypte. Donc, c'est pas ça les trucs précieux. Alors que Trelet Vargaman, ouah. C'est-à-dire, donc on te dit Trelet Vargaman. Et Shrak Bayachat, c'est que les habits sont en pishtan et le Trelet, il est en tsemer. Comment faire? Ça s'appelle Chatnez. On n'a pas le droit de mélanger un habit de lin et un habit de laine. Non, on n'a pas le droit à l'extérieur du Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, on a le droit. C'est-à-dire que les habits des Kohanim, ils sont faits de Chatnez. C'est bon, tout va bien?
Tout va bien.
Ça dérange personne?
Personne.
D'accord. Bon, bah alors, si ça ne vous dérange pas, on ne saura pas pourquoi. puisque vous ne posez pas la question, alors c'est que c'est clair. C'est interdit le Chatnez. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. Stam.
Il y a plein d'explications.
Une.
Alors, il y a l'animal et le végétal.
On n'a pas le droit de mélanger l'animal et le végétal parce que.
C'est deux mondes différents.
Donc, c'est vrai que dans mon assiette, il n'y a aucun problème. Je peux les réunir la méhadrine.
Tu prends des steaks frites, toi?
Et je prends des steaks frites. Je prends même avec plaisir des steaks frites. Rabotai, la Torah, je ne cesse de vous le dire, nous on l'a reçue aussi, mais à la base elle a été donnée aux Bnei Israël qui sortent d'Égypte. Quand tu dis à un juif d'il y a 3500 ans qui sort d'Égypte, qui a passé 210 ans en Égypte, tu lui dis on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine, les choses sont évidentes. Arrête, le lin, c'est le matériau de base pour les vêtements en Égypte. La laine, c'est le matériau de base pour les vêtements de ceux qui sont des bergers. Les Hébreux sont des bergers, c'est en tant que tels qu'ils sont arrivés en Égypte. Or, c'est à l'inverse, les Égyptiens ne sont pas bergers. Kitoevat mitzraim kol roetzon. C'est une abomination pour eux. Donc, les Hébreux sont habillés en laine, les Égyptiens sont habillés en lin. Quand on te dit en sortant d'Égypte, tu ne mélanges pas le lin et la laine, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire d'assimilation culturelle. Il faut bien marquer la différence. Au Beth Amikdash, tu comprends que vu que tu es à l'endroit où tu dévoiles la Kadosh Baruch Hu, il y a oui des passerelles à faire. Parce que tout n'est pas à jeter dans l'Égypte. C'est-à-dire ? Donc ce qui est interdit à l'extérieur du Beth Amikdash va être permis à l'intérieur du Beth Amikdash. Ok ? Iné. Vayase taifot zav techelet vargaman vetolat shani veshesh moshzar. ויראו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התחלת ובתוך הארגמן ובתוך תולת השני ובתוך השש מעשה חושב. Donc là on fait quoi? On fait le ephod. זה ephod? אני dit le ephod c'est?
Pétora.
Non, ça c'est le choshen. Le ephod c'est ce qui va permettre de tenir le choshen. C'est l'espèce de gilet sur lequel on va pouvoir accrocher le pectoral. Ok ? כתפות עשוי לו חוברות על שני קצותיו חובר. C'est-à-dire que c'est en fait un gilet qui n'est pas, c'est pas un gilet qui est fini. C'est-à-dire que quand il n'est pas sur toi, il est en deux parties. Il y a une partie là, une partie dans le dos, et c'est relié. Non, mais tu peux pas le mettre comme ça. Parce qu'il est relié, en fait, la partie de devant et derrière, relié par des cordes. Ok, qui ne sont pas tout le temps mises en place. Quand on le met au Cohen, il est relié par des cordes et il a sur les épaules deux pierres avec les noms des enfants d'Israël. Six là, six là. D'accord ? Qui porte le poids des Bnei Israël sur ses épaules, c'est pas seulement une figure de style. ושש מוסדן, וכשאשר ועשיין משה. ויעשו את אבני השועם מוסבות מושבצות זהב מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל, c'est ce que je viens de vous dire, c'est de Pierre qu'il a sur les épaules. וישם אותם על כתפות האפוד אבני הזיכרון לבני ישראל כאשר ציווה השם את משה. D'accord? Ils sont là pour rappeler aux Cohen qui bossent pour les Bnei Israël et aux Bnei Israël qu'ils ont envoyé le Cohen pour eux. D'accord? ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מוזר ספוע ומפה לפקטורל החושן רבוע היה כפול עשו את החושן זר את אורכו וזר את רוחבו כפול וימלאו בו דבור כדי קרה אילה שורטו כפול c'est-à-dire qu'il a une double épaisseur. C'est pour que tu puisses y incruster les pierres.
Les pierres.
D'accord ? Vaimalu bo arba touré aven, il y a quatre colonnes de pierre. Tour odem pitda ou bareket, tour à toura echad. Vaatoura sheni nofer sapir veyalom, vaatoura shelishit leshem shvo vachlama, vaatoura revit archish shoam veyashve. Pourquoi j'ai pas traduit les noms des pierres précieuses ? Parce que je sais pas comment ça se traduit en français. Je suis très mauvais en pierres précieuses. Voilà. Vous pouvez demander au Rav Google. Il va vous dire les noms des pierres précieuses en français. Moi, j'y connais rien. Le Rav Google va certainement te ramener à Abu Rabin. Non, la vérité, c'est que je ne sais pas. Je suis mauvais en pierres précieuses. Donc, je vous invite à, et vous aussi, à travers le monde, à aller vérifier.
Sur le site Sepharim.
Certainement, certainement. Mais ils vont certainement me donner des noms tellement scientifiques de la pierre que on va toujours, ça ne va pas nous aider, quoi. C'est très possible. En tout cas, Va'avanim al shemot bnei Israël, henna shetem esre al shemotam pituche chotam ish al shemo lishne masar shavet. Donc il y avait sur les pierres qui sont sur les épaules. On a dit, il y a 6 et 6 des noms d'Ebné Israël. Sur les pierres du pectoral, sur chacune des pierres, il y a un des noms d'Ebné Israël. Oui.
Est-ce que les pierres, tout ça, les explications, ça n'avait pas été expliqué dans tes remarques, ces pierres
Qu'est-ce que c'est que ces pierres aussi, on a dit, là, c'est quoi ces pierres
D'accord, mais je veux dire, par exemple, enfin, donner plus de détails. Par exemple, là, sur le rachis, par exemple, il n'y en a pas.
Ben, c'est ça.
Parce que tout ça, il a peut-être.
Ah, expliqué là-bas ouais. Non. Non. Enfin, pas que je me souvienne, si tu veux, on peut aller retrouver. Mais je me souviens pas qu'il avait donné les explications. Attends, pas peine de. Parachat Terouma. Yutedot, non, ça c'est pas ça.
Rachid est bien plus bavard.
Attends. Shagevim, ça c'est la menorah. Alors, total caporel, c'est la moitié de la chine.
Avec
après, toi tu dis. Alors, iné. Massechor, c'est la moitié de la chine. C'est la chine. Choshen amishpat. Iné. Iné. Perek kafret, pasuk yud zain. Ok? Est-ce que Rashi nous parle des pierres? Pas vraiment, hein? Pas vraiment, mon ami, hein? Désolé. 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 Aide-moi la saute. Et donc, il va falloir que tu demandes à un spécialiste des pierres pourquoi celle-là est plus propice à telle ou telle tribu. Je t'avoue que Katonti Miladat. Je ne sais pas. Voilà, je fais état ici de mon ignorance totale face aux pierres. Voilà. Comme diraient nos maîtres dans le Talmud, Makom inarti lecha leitgader bo. Je t'ai laissé une place pour que tu amènes tes chidushim à toi. C'est pour ça que dans les chumashim, il y a un peu de place en blanc là. C'est pour que tu puisses écrire ton commentaire de la Torah.
Pas dans le Sefer
Torah, c'est compliqué. Après, il faut effacer. C'est compliqué. Besaider, Tov. Alors, on revient. Vayasu alachoshen sharsherot. Sharsherot, c'est gavelut maase avot zaav taor. Vayasu shete mishbetzot zaav u shete tabaot zaav. Vayitenu et shete hatabaot al shete haketzot achoshen. Vayitenu shete avotot azaav. Al shteh tabaot al ketzot achoshen. Donc on a également des boucles cette fois en or qui vont pouvoir rattacher le choshen. Et shteh ketzot shteh avotot natnu al shteh mishbetzot vaytenu mal kitfot ha'efod el mul panav vayasu shteh tabaot zahav vayasimu al shteh ketzot achoshen al sefato asher al ever ha'efod baita. ויעשו שתי טבעות זהב ויתנו מלשתק את אפות האפות מלמטה ממול פניו לעומת מחבחתו ממעל לחשב האפות. וירכסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפות בפתיל תכלת להיות על חשב האפות ולא ייזח החושן מעל האפות כאשר ציווה השם את משה. לא אפות אלו חושן נדוע פר פלוקה, אילסון אק חושה לעלות, avec un fil de trellet. C'est-à-dire un fil de laine qui a été teint avec le trellet. C'est-à-dire le trellet, on avait expliqué, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus si on avait expliqué. Trellet, comment est-ce qu'on fait le trellet ? C'est cette espèce de chilazone. C'est un animal qui produit cette couleur-là. Il y a plusieurs avis qui ont été émis pour dire qu'est-ce que c'est le trellet, le chilazone. Le rabbi de Radzin, il y a une centaine d'années, a proposé la mini-pieuvre qui s'appelle Dunon, qui relâche un liquide bleuâtre, et qui pense que c'est ça le trellet.
Ils ont fait un jeu depuis...
Ils ont quoi ?
Ils ont fait un jeu sur Dunon.
Ah ouais ? Non. Aujourd'hui, personne ne pense que c'est ça le trellet. Il y a eu un autre avis qui a été amené par le Rav Herzog, que le trellet serait un espèce de petit mollusque qui ressemble à un tout petit coquillage, mais ça ne semble pas non plus être vers là qu'on se penche. La majorité des avis aujourd'hui rejoignent l'avis du Machon Amigdash, qui pense qu'il s'agit de ce qu'on appelle en hébreu Argamon Keikotsim, qui a un nom extrêmement imprononçable en français, qui est un espèce de coquillage mollusque à pic, que tu enlèves l'animal d'intérieur, qu'il y a à l'intérieur, tu l'écrases, et ça fait une pâte violette, que lorsque tu fais sécher au soleil, elle devient très laite. C'est-à-dire, on a retrouvé au large de Akko, dans les fouilles archéologiques, un endroit qui est le même endroit qui est mentionné dans la Mishnah, où la Mishnah nous dit que c'est là qu'on faisait le très laite, et bien on a retrouvé des milliers de coquilles de ce coquillage avec le même trou au même endroit. Ça semble correspondre à ce que nous enseigne la Mishnah, donc il semblerait que ce soit bel et bien ça le trellet. Non, c'est un animal pas cachère.
Bah oui.
Comment ça se fait qu'il peut participer au Kodesh? Parce que si c'est le Beth Amikdash, il doit pouvoir élever toute la création, pas que les choses que moi je vais manger. Alors, je ne peux pas le manger, mais je peux l'utiliser.
C'est pas le bleu qu'on a sur
les tiki. Si, c'est ça. Oui, mais je n'ai pas dit qu'on n'avait pas le droit d'avoir du bleu à l'extérieur du Beth Amikdash.
C'est du bleu pas cachère, enfin, provenant d'un animal pas cachère.
Mais encore une fois, le bleu pas cachère, tu ne le manges pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'élever par la nourriture des choses qui ne sont pas cachères. mais on peut les rattacher à la sainteté par d'autres moyens. En l'occurrence, les tzitzit. Il y a plein de choses comme ça qu'on va utiliser qui ne sont pas des animaux cachers, mais qu'on va utiliser pour faire autre chose. Ça ok. Vayasu shetat, ça on a dit. Kachat et Vachem et Moshe. Ok. Vayaset me'il ha'efod ma'ase oreg kelil techelet. Me'il ha'efod, ça c'est uniquement, de toute façon on parle là en ce moment que des habits du Kohen Gadol, c'est le grand manteau qu'il a au-dessus des habits de Kohen normal. Ok. Oreg kelil techelet, donc lui aussi, il est fait de manière entremêlée. Trelet v'argamal. Ou pia meil betocho kefi tachra safa lefi saviv lo ikarea. Il a une ouverture, ce manteau, qui ne doit pas pouvoir être déchiré. Donc ça veut dire que c'est pas un truc que tu clipses. C'est fait avec une forme qui est déjà finie. Vayasu al shulle ameil rimonet techelet v'argaman v'tolat shani moshzar vayasu pa'amone za'av ta'or v'itenu al pa'amonim betoch harimonim al shulle ameil saviv betoch harimonim pa'amon v'rimon pa'amon v'rimon al shulle ameil saviv lesharet ka'asher tziva Hashem et Moshe. Donc il y a en bas du meil 72 clochettes alternées, soit en forme de cloche, soit en forme de grenade, en or qui entoure le Kohen Gadol. Là, ma 72, c'est pas marqué 72 ici, c'est marqué rien du tout, mais c'est d'après l'enseignement de la Kabbalah, Betziruf Haotiyot de Shem Hashem. C'est par rapport au nom divin. D'accord? Ok. Vayasu et akutonot shesh maase oreg le Aaron ulvana. Maza kutonet. Là, c'est déjà les habits de tout le monde. C'est la tunique. L'Aaron ou le Vanav. Vet a mitznefet chesh, vet paare a migbaot chesh, vet michnese abad chesh mozar. Donc il faut faire le chapeau et les pantalons. Enfin, un pantacourt. C'est pas un pantalon, c'est un pantacourt.
Oui.
Il arrive au mollet.
Bermuda.
On appelle ça un Bermuda ?
Oui.
Bermuda, c'est pas au-dessus du genou ?
Ah oui.
Il y a donc un fil qui va leur accrocher le tzitz à la mitznefet sur le turban, sur le chapeau. Chez là, est-ce que le tzitz il est que en mode diadème ou est-ce qu'il est entier? Est-ce que c'est une couronne? Azé machloket barishonim et bagmara. Et donc c'est pour ça que le Machon Amigdash ils ont fait les deux versions, une version couronne et une version diadème. C'est-à-dire ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה כן עשו. Toute la construction telle qu'elle avait été demandée par Hakadosh Baruch Hu à Moshe a été réalisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une phrase qui décompte depuis le début de la paracha. On nous dit Kasher Tziva Hashem et Moshe, on l'a lu déjà au moins 5-6 fois et ça va continuer dans la suite de la paracha. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de revenir sur cette phrase Kasher Tziva Hashem et Moshe autant de fois et comment on va se terminer la conclusion du Sefer Shemot? Eh bien c'est ce genre de choses auxquelles nous devrons répondre la semaine prochaine. Chazak. Ou bien